Cinquième célébration, c'est le chapitre 17. Toute la communauté d'Israël, sur l'ordre du Seigneur, sur l'ordre de Yud-Hé-Vav-Hé, quitte le désert de Sin et se rendit par étapes à Réphidim, où ils installèrent leur camp. Alors là encore, ne cherchez pas, mais et cherchez pas sur une carte d'Israël, une carte routière d'Israël moderne, parce que vous trouverez Réphidim. Mais ça, c'est une invention. Lorsqu'on sort du désert et qu'on arrive quelques kilomètres au sud de Beersheba, on serait dans cette partie où on commence à voir de la verdure sur les collines d'en face. C'est là qu'ils installèrent leur camp. Mais il n'y avait pas d'eau pour boire. De sorte qu'ils cherchèrent querelle. Oui, moi je veux bien, mais moi je dirais qu'ils râlent encore plus fort. Donc chercher querelle, c'est encore plus fort que murmurer. On est à un degré de plus. Ils cherchèrent querelle à Moïse et ils dirent, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur dit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi mettez-vous le Seigneur à l'épreuve? Oh, ça c'est beau de la part de Moïse, mais c'est aussi culotté. Il a très bien compris que ce n'est pas seulement à lui que le peuple en veut, parce que le peuple a soif, mais c'est aussi à Dieu. Pourquoi mettez-vous Dieu à l'épreuve? Verset 3, assoiffés, les gens se mirent à protester contre Moïse en disant, pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif ici avec nos enfants et nos troupeaux? Même schéma que nous avons vu avant le repas, à savoir, qu'est-ce qu'on vient faire dans le désert? On ne peut que mourir dans le désert. À moins que, c'est ce que nous avons vu ce matin, à moins que le désert devienne non plus ce lieu sans parole, mais le lieu d'une parole, le lieu d'une alliance. Alors Moïse implora le secours de YHWH. Que dois-je faire pour ce peuple? Demanda-t-il. J'aime bien Dieu. J'aime bien Moïse. Il est en train de dire ce que chacun d'entre nous disons dans une situation semblable. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que... Mais c'est à Dieu qui dit ça. Alors il lui dit, je ne sais plus quoi faire. Et heureusement, c'est là aussi que je trouve que Moïse est grand. Grand dans sa fragilité. Nous apprendrons que c'est vraiment une leçon à tirer de la Bible et en particulier du Nouveau Testament. Être grand dans sa fragilité. Et il s'en manque de peu, verset 4. Il s'en manque de peu qu'il me lapide. Verset 5. YHWH. Donc le Seigneur qui est avec lui répondit. Passe devant et fais-toi accompagner des anciens d'Israël. La première fois, il est seul. Ensuite, il est seul avec Aaron. Maintenant, il est seul avec quelques-uns des anciens d'Israël. Et tu avanceras en tenant à la main le bâton avec lequel tu as frappé. C'est bien gentil, mais je ne vois pas pourquoi ce que ce serait le Nil. Parce que vous avez pris au sérieux chronologiquement dans l'histoire avec un grand H que c'était au bord du Nil. L'hébreu est plus prudent. Il dit, c'est avec ton bâton que tu as frappé le fleuve. C'est lequel fleuve que vous avez frappé avec votre bâton? Ce bâton, pour la première fois, il apparaît dans le livre de l'Exode, au chapitre 4, quand le Seigneur parle avec Moïse dans le buisson. Il permet à Moïse de s'en servir. Et lorsque vous avez l'énumération très longue, parfois un peu fastidieuse, des 10 plaies d'Égypte, c'est chaque fois, ça commence par son bâton que Moïse doit jeter par terre et qui est transformé en serpent. Racontez pas ça aux enfants parce qu'ils vous diront qu'à la télé, ils voient beaucoup mieux, hein. Il y a des prestidigitateurs ou des magiciens qui font des tas de trucs comme ça, qui disparaissent. Ça avait la possibilité de plaire à l'époque. Aujourd'hui, ça ne nous impressionne plus beaucoup, les 10 plaies. Quoique la 10e, la mort des premiers-nés, aussi bien chez les humains que chez les animaux, ça, c'est quand même impressionnant. Mais je pense que nous pouvons rapidement passer sur les 10 plaies d'Égypte en nommant les dangers que nous avons traversés, ou pour les plus chanceux, les dangers auxquels nous avons échappé. Mais j'aimerais continuer avec cette même idée du bâton. Non pas en restant à ce bâton miraculeux qui fait que quand on le brandit sur l'eau, les eaux s'écartent, et quand on le brandit une deuxième fois, les eaux se remettent. Mais rappelez-vous ce qu'est devenu son bâton. Et j'ai fait l'expérience il y a pas plus que 3 semaines chez mon pharmacien. Pourquoi chez mon pharmacien? Parce qu'à un certain moment, dans le livre des Nombres, il nous est raconté que Moïse et les fils d'Israël traversèrent une plaine infestée de serpents et de scorpions, et beaucoup mouraient. Attendez, c'est pas juste, hein. Si Dieu nous a fait sortir du pays d'Égypte, c'est pas pour nous faire mourir ni de faim, ni de soif, ni des serpents. Ça fait quand même beaucoup. Il faudra donc chaque fois lui rappeler qu'il est avec nous. Et que s'il est avec nous, ça ne doit pas nous arriver. Alors, le Neushtan, c'est comme ça que le mot qui était à l'origine bâton va être transformé, parce que Dieu lui dit, eh bien, fais-toi un bâton d'airain. Et comme c'est par des serpents que tout le monde meurt, donne-lui la forme d'un serpent, mais d'une matière qui soit solide, plus que le bois. Alors fais-toi. Et on traduit dans la plupart de nos Bibles, et on a raison, un serpent d'airain. Et chaque fois qu'en traversant la plaine, vous regardez vers ce serpent d'airain, vous serez, quelle que soit la morsure, vous serez guéri. Et ce symbole n'existe pas seulement dans la Bible, il existe devant beaucoup de nos pharmacies. Mais si vous posez la question au pharmacien, il vous dira, ah oui, oui, c'est le caducé. Dites-lui simplement que c'est le chapitre 21 du livre des Nombres, avant même qu'on n'ait jamais entendu parler de caducé. C'est quoi cette histoire bizarre? C'est pas le caducé devant votre pharmacie ou la croix verte devant vos pharmacies qui vous guérit. J'espère au moins que les médicaments que vous achetez dans la pharmacie vous sont utiles. Est-ce qu'ils vous guérissent? J'en sais rien. Mais ils nous détournent les yeux de ce qui était mort. Un serpent, un scorpion, ça sème la mort. Et il faut détourner son regard vers ce qui va avoir dans la tradition orientale et dans les églises orientales aussi une forme de croix, et que on a laïcisé en faisant plutôt une forme de serpent, mais qui a la même intention. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Chapitre 21, verset 9. Vous voyez, si nous mettions bout à bout toutes les fois où il est évident que j'ai rien fait, si ce n'est de râler contre Dieu, et que Dieu a manifesté qu'il était avec moi, ça fait quand même une série, et on n'a pas cité tous les chapitres du livre. Autrement dit, s'il y a une leçon à tirer du livre de l'Exode, c'est son titre. Est-ce que vraiment il va nous faire sortir? Est-ce qu'il y aura vraiment, après tous ces échecs, est-ce qu'il y aura vraiment une réussite? Si vous répondez en votre nom, je vous autorise à douter. Mais si vous répondez au nom de Dieu, et c'est ça qui nous est proposé, c'est de lui dire, tu ne peux plus être celui que j'appelle celui qui est avec, si tu n'es plus avec. Et si tu me laisses mourir, alors tu n'es plus avec. C'est le but de ce passage du chapitre 17 que nous avons ici. Et il faut que Moïse en soit convaincu. Alors le texte continue. Verset 5. Le Seigneur lui dit, passe devant, accompagné de quelques-uns des anciens d'Israël, et avance en tenant à la main ton bâton avec lequel tu as frappé le fleuve. Et moi, je me tiendrai là, devant toi, sur un rocher de la montagne qu'on appelle Horeb. Tu frapperas sur... Attendez, oui, Horeb, ne chipotez pas trop, ailleurs ça se dit Sinaï. Mais c'est comme en Valais. Suivant de quel côté vous regardez, vous voyez le Cervin, puis suivant de quel côté vous regardez, c'est le Matterhorn. Ne chipotons pas trop, c'est des façons différentes de dire la montagne. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et les gens pourront boire. Moïse obéit à cet ordre sous le regard des anciens, et c'est pour ça qu'on a appelé cet endroit Massa et Meriba, ce qui signifie Massa épreuve, Meriba querelle, parce que les Israélites avaient cherché querelle à Moïse et avaient mis le Seigneur à l'épreuve, en lui demandant « Est-ce que le Seigneur est vraiment avec nous ou pas ?» Là encore, je ne résiste pas à la tentation de vous raconter des histoires que j'ai vécues avec les Bédouins des dizaines de fois. Et donc, dans des tribus bédouines du Sinaï différentes, où la tradition s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui, et les Bédouins me disent « Ah, puisque tu parles de Moïse, tu viens avec nous, on va te montrer le rocher de Moïse. » Et je dis « Non, non, le rocher de Moïse, je sais, c'est à Sainte-Catherine, c'est le mont Moïse à 2280. » « Non, 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 c'est juste ici, c'est une heure de marche. » Alors il m'emmène quelque part devant un rocher, et il me dit « Tu veux essayer ?» Il me donne un bâton, je tape contre le rocher, et ça coule. Et ça coule. Et avec un mouchoir, je peux filtrer l'eau qui est évidemment sablonneuse et en remplir facilement un verre d'eau. Vous expliquez ça comment? tout petit peu de géologie, tout le Sinaï du centre est un millefeuille composé de roches tendres et de roches dures, de roches tendres, de roches dures. Quand il pleut, ça tombe à l'intérieur et ça va jusqu'à l'épaisseur de la roche dure et puis ça se stabilise et quand ça remplit tout l'espace de la roche dure, ça dépasse et ça dégouline. Et il suffit d'un coup de vent pour que le sable mis avec l'eau qui coule du rocher se colle comme un ciment et donc ça ne coule plus. Et les Bédouins connaissent très bien les endroits parce qu'ils y amènent régulièrement leurs troupeaux et avec un bâton, ils tapent là où le sable est bien collé contre la fente, ça coule. Et si ce n'est pas votre bâton, c'est la nature qui fait la même chose. J'ai pu manger des capres au milieu du Sinaï, c'est excellent, une sauce faite avec du lait de chèvre, des capres, et pour manger des cailles, on se croirait en plein exode. Pourquoi je vous raconte ça? Pour démolir le truc? Pas du tout. Pour nous dire que les meilleurs dons de Dieu, ils sont encore valables aujourd'hui, mais peut-être qu'ils ne se présentent pas tout à fait de la même façon. Peut-être que ce n'est pas avec un bâton sur un rocher que vous allez faire couler de l'eau. Mais dites que vous avez faim. Donne-nous aujourd'hui notre nourriture de ce jour. Dites que vous avez soif. Est-ce que nous osons dire nos besoins à Dieu? En sachant que il y répondra, mais pas toujours comme nous le lui demandons. Donc l'histoire du rocher avec un bâton, je l'ai essayé plusieurs fois dans les diablerets, ça n'a pas vraiment marché. Mais il y a d'autres choses où nous avons besoin de mettre à exécution nos révoltes, nos querelles. C'est-à-dire, ça suffit. Alors Dieu montre, c'est du reste la provocation du verset 7, le Seigneur est-il parmi nous, oui ou non? Et c'est nous qui répondons. Ce n'est pas le Seigneur. Le Seigneur a fait monter Moïse sur un rocher et lui a dit « tape ». Vous me permettez, je préfère lire ce texte avec humour. Parce que si j'essayais, je ne me prendrais vraiment pas au sérieux. Et tout d'un coup, là où ma vie est devenue assoiffée et vide de tout sens, voilà qu'un événement provoque. Là où je ne m'y attendais surtout pas, provoque la réponse à ce dont j'avais besoin. C'est cela dont nous avons besoin. C'est aussi pour cela que nous avons besoin d'être les uns avec les autres. Pour que, quand moi je n'ai plus la force de crier, d'autres peuvent crier pour moi. Et quand moi je n'ai plus l'imagination pour voir que dans ma vie Dieu agit, alors d'autres peuvent m'aider à comprendre et m'aider à avancer. On aura d'autres textes, mais c'est inutile que je les cite. Ils sont presque trop nombreux. D'autres textes qui nous permettent de donner consistance avec nos mots à nous, à des endroits que forcément, compte tenu de ce que le peuple a vécu, on appelle dorénavant Massa ou Meriba. Notez que je n'ai jamais vu aucun lieu avec un écriteau à l'entrée du lieu disant que c'est Massa. Mais des lieux de tentation, ça existe. Je n'ai jamais rencontré aucun endroit où, avec l'entrée du panneau de l'entrée du village, c'était marqué Meriba. Mais des lieux d'épreuve dans ma vie, ça existe. Autrement dit, que ce soit tentation, que ce soit épreuve, est-ce que je crois que Dieu est là? Rétrospectivement, nous retrouvons Jacob qui, après sa lutte avec l'ange, va s'exclamer « Dieu était là, mais je ne le savais pas. Je n'ai pas su ou je n'ai pas voulu le savoir. » Une fois de plus, j'insiste parce que c'est vraiment un des fils conducteurs de ce livre de l'Exode. Une fois de plus, Dieu ne fait pas tout seul. Mais moi, je ne fais pas tout seul. Donc, autrement dit, rien n'est impossible à Dieu, mais il ne le fera pas sans moi. Ça me fait penser à cette interview que le cardinal archevêque de Malines, Bruxelles, cardinal Danez, il est mort depuis, avait donné tout de suite après sa mise à la retraite, après 75 ans, et il avait accepté un journaliste qu'il connaissait bien et qui lui a posé tout plein de questions un peu impertinentes. Et je retiens au moins cette question. Le journaliste lui dit, mais quand vous aviez des journées lourdes, fatigantes, épuisantes, vous arriviez quand même à dormir le soir, la nuit? Le cardinal Danels de répondre, « Oh, vous savez, c'est très simple. Quand je me mets au lit, je dis au Seigneur, et c'est la dernière chose que je fais avant de m'endormir, « Eh bien, Seigneur, on était très bien aujourd'hui, toi et moi. Enfin, surtout toi. » Et le journaliste de lui poser la question, « Et ça marche ?» Et Danels de répondre, « Oh, ouais, il y a des jours où je dis, tu vois, Seigneur, on était très bien aujourd'hui tous les deux, enfin surtout moi. » J'aime cet humour très biblique. Que voulez-vous que le Seigneur, que nous appelons le Dieu de l'impossible, puisse faire sans nous? Vous permettez, je lui renvoie la parole. Hein. S'il fait sans nous, alors moi, je n'en ai pas besoin. Je peux très bien me débrouiller sans lui pour annoncer des mauvaises nouvelles. J'ai qu'à ouvrir la télévision. Donc si Dieu a une quelque chance de me parler, c'est justement dans mes fragilités. Est-ce que vous avez essayé de relire les Béatitudes au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu ? En disant que c'est une chance. Jésus lui-même nous dit que c'est une chance. Heureux ceux qui. Et vous prenez chacune de ces béatitudes, c'est quoi? C'est un manque. Autrement dit, Jésus nous dit par 8 fois, heureux es-tu quand tu es en manque. Et on pourrait prendre des exemples un peu amusants. Jonas, je ne sais pas s'il a vécu, mais je peux vous dire en Galilée dans quel patelin on dit la tradition qu'il est né dans ce patelin-là. Mais le prophète Jonas, c'est qui? Vous connaissez l'histoire. Dieu lui dit de partir à Ninive, c'est-à-dire à l'est. Elle lui veut pas, il part à l'ouest, il prend un bateau, il file. Et ça a donné une chanson parmi les plus populaires du patrimoine de la chanson française. Il était un petit navire. Vous avez jamais chanté ça en lisant le prophète Jonas? C'est quoi le prophète Jonas? Il raconte aux mariniers, mais c'est pas votre faute s'il y a une tempête, c'est de ma faute. Encore un qui se culpabilise facilement. Hein. Et donc, balancez-moi par-dessus bord. Il était un petit navire. Mais à l'école enfantine, quand on nous a appris ce chant, on ne nous a jamais dit que c'était dans la Bible. Et donc, il est balancé par-dessus bord. Il est mangé. S'il vous plaît, dites pas à vos petits-enfants, ni même à vos enfants, que c'est par une baleine. Les baleines ne se nourrissent que de tout petits poissons. Et c'est un gros poisson, Jonas. Alors, en hébreu, vous avez le mot que vous connaissez. Le mot hébreu, c'est Léviathan. Le Léviathan. Il est bouffé par Léviathan. Qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il est bouffé? C'est ça qu'il faut avoir le sens de l'humour que nous n'avons pas souvent quand nous lisons la Bible. Qu'est-ce qu'il fait quand il est mangé par la baleine ou par le Léviathan? Il chante des cantiques. Oui, exactement. Comme s'il n'avait rien d'autre à faire. Ou peut-être qu'à ce moment-là, il se rappelle justement que il est avec. Et ça doit faire tellement glou-glou dans le Léviathan que le Léviathan le recrache. Continuez toute l'histoire de Jonas. Ça va de plus rigolo en plus rigolo. Et c'est notre vie. Nous aussi, quand on est à l'intérieur du Léviathan, je nous souhaite de nous rappeler un tout petit peu d'un poème ou d'une chanson qu'on chante à l'église et qui nous permettrait de faire que ça fait glou-glou dans le monstre et il nous recrache sur le rivage. Voilà un peu de quoi est façonné cet imaginaire spirituel qui avait beaucoup de succès parce qu'on se souvient de ces histoires, parce qu'on aime les rappeler. Et parce que on n'a jamais oublié le contexte dans lequel ces histoires sont nées. Mais honnêtement, chers amis, vous avez peut-être à l'école appris des fables de La Fontaine. Est-ce qu'on vous a dit que c'était des pamphlets politiques? Et que celui qui est visé, c'est le roi et le système monarchique? Vous voyez, je ne suis pas sûr que nos enseignants aient eu l'intelligence, mais peut-être qu'ils n'osaient plus, de faire de la morale comme avec le chaperon rouge, parce qu'il ne faut pas suivre n'importe qui. Toute cette morale, vous la trouvez dans les livres de la Bible, à condition que de temps en temps, vous acceptiez de lire la Bible avec d'autres lunettes et de vous dire, mais cette histoire du serpent, ça tient pas. Ben si, ça tient. Mais peut-être que le bâton en question n'avait pas la forme à laquelle vous pensez. Je m'arrête, on se donne 5, 10 minutes.